RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et la Malaisie travaillent ensemble pour préserver les rhinocéros de Sumatra. La ministre indonésienne des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée discuteront des questions frontalières. Le gouvernement veille à ce que le budget de 2019 stabilise l'économie. La ministre des Finances prévoit que la croissance économique de 2018 atteindra 5,2%. Étant enfin, l'Indonésie développe des voitures électriques. L'industrie des composants ne doit pas s'inquiéter. Voici le journal complet. La conservation des espèces de rhinocéros de Sumatra en voie de disparition sera l'une des discussions de la réunion bilatérale entre la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, et celui de la Malaisie, Saifuddin Abdullah, qui aura lieu en Indonésie lundi le 23 juillet. Le directeur de l'Asie du Sud-Est du ministère des Affaires étrangères, Denis Abdi, a déclaré dans une conférence de presse tenue mercredi à Pékin que jusqu'à maintenant, les deux pays continuaient à chercher des moyens afin d'accroître la population des rhinocéros de Sumatra.
Dan juga sekarang sedang kita kerjakan dengan Malaysia adalah konservasi badak Sumatra. Nah
ini. Et maintenant, nous travaillons avec la Malaisie à la conservation du rhinocéros de Sumatra. Le rhinocéros est l'une des rares espèces au monde. La Malaisie n'a que deux quais. L'Indonésie possède encore quelques quais, bien que la tendance soit également en baisse. Nos deux experts essaient de trouver des moyens de garder ces rhinocéros, ont encore une progéniture. Si cela réussit, c'est un succès mondial de défendre les espèces en voie de disparition. Selon Denis Abdi, la Malaisie invitera également des experts en conservation d'Allemagne et des États-Unis pour aider la coopération de conservation des rhinocéros avec l'Indonésie. Les experts vont discuter, mener des recherches et à trouver des moyens de faire augmenter le nombre de rhinocéros de Sumatra via la reproduction naturelle. La conservation du rhinocéros de Sumatra sera concentrée à deux endroits, à Sabah, la Malaisie, et à Waikambas, Lampung, Indonésie. Selon les dernières données de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN ou Union internationale pour la conservation de la nature, les populations du rhinocéros de Sumatra en Indonésie et en Malaisie comptent actuellement moins de 100 rhinocéros. La ministre indonésienne des affaires étrangères, Kato Maksudi, tient de cas une réunion bilatérale avec le ministre des affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, à Jakarta, jeudi après-midi. La question des frontières est l'une des questions importantes à discuter par les deux ministres des affaires étrangères. Ils discuteront également des résultats d'une réunion conjointe du comité des frontières entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela a été dit par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir.
Beberapa isu nantinya yang tentunya akan menjadi perhatian dalam kedua
certaines questions qui seront l'attention des deux ministres. Le premier est lié à la gestion des frontières. Nous avons une frontière assez longue avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans laquelle il y a aussi de grands potentiels économiques et des questions frontalières. En outre, les deux ministres discuteront également des résultats de la réunion du comité conjoint des frontières qui s'est tenue en avril. En plus des questions frontalières, selon Arman Atanasir, les deux ministres discuteront également l'intensification de la coopération économique et commerciale. Un aspect qui sera renforcé par la coopération économique et commerciale est l'interaction entre les acteurs économiques des deux pays. La valeur commerciale entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017 a atteint de 108,89 millions de dollars américains, une augmentation par rapport à l'année 2016 qui n'a enregistré que 179,2 millions de dollars américains. Le gouvernement indonésien veille à ce que le budget de l'État 2019 soit un budget capable de maintenir la stabilité économique et sociale de la communauté, en particulier face à l'incertitude mondiale. Il a été dit par la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, après avoir assisté à la réunion du cabinet plénière qui a discuté sur le projet du budget de l'État de 2019 au palais présidentiel de Bogor, Jawa West, mercredi. Selon elle, afin de faire face aux défis externes de plus en plus dynamiques, le budget de l'État de 2019 doit être conçu comme un instrument sain, crédible et à la haute prioritaire. À cette fin, le gouvernement prévoit de former un APBN qui puisse stimuler la croissance économique et maintenir la croissance économique des populations.
Untuk menerjemahkan itu, kita akan membuat desain dari APBN dengan defisit yang.
Pour traduire cela, nous ferons la conception de l'APBN avec un déficit de moins de 2%, mais suffisant pour continuer à stimuler l'économie et garder la communauté, particulièrement en groupe vulnérable. Ce sera notre conception finale du déficit qui devrait être inférieur à 2%. Pour réduire également le solde primaire négatif qui était supposé que le gouvernement devrait garder sa politique de la dette avec soin. Nous avons hier au Parlement et aux organes budgétaires ont montré que la tendance de la gestion de la dette a baissé très régulièrement et nous allons continuer cette tendance en 2019. Plus tard, le montant du déficit et le solde primaire seront présentés dans la note financière. Pendant ce temps, le ministre de la Planification du Développement National, en tant que chef de l'Agence nationale de planification du développement, Bambang Brojonegoro, a ajouté que le gouvernement avait le projet de faire des économies sur les dépenses de biens dans le budget de l'État 2019. Selon lui, le gouvernement va réallouer les biens pour encourager la mise en œuvre des programmes prioritaires. Bambang a dit, plusieurs programmes prioritaires qui seraient inclus dans le budget de l'État 2019 sont entre autres le développement des ressources humaines par la réhabilitation des installations éducatives, à la fois sous les auspices du ministère de l'Éducation et de la Culture et le ministère des Affaires religieuses. Le gouvernement renforce également l'enseignement professionnel et diminuera le retard de croissance. En rapport avec le retard de croissance, M. Bambang a affirmé que le gouvernement apporterait un renforcement pour l'amélioration des services de santé. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, prévoit que la croissance économique en 2018 pourrait atteindre 5,2%, soit au-dessus de l'hypothèse fixée dans le budget de l'État de 5,4%. Cela été dit par Sri Mulyani dans sa présentation du premier semestre de la réalisation du budget d'État et la projection du second semestre de 2018 dans une réunion de travail avec l'agence budgétaire à Jakarta mardi. Sri Mulyani a expliqué que des estimations sont obtenues en considérant la réalisation de la croissance économique dans le premier semestre 2018 de 5,1% et la projection dans le second semestre 2018 de 5,3%. Pour la croissance économique du premier semestre 2018, Sri Mulyani estime que la situation est encore influencée par l'augmentation de la consommation des ménages, l'investissement et l'amélioration des performances commerciales. Selon la projection de la fin d'année, les hypothèses macroéconomiques qui ont augmenté par rapport au budget de l'État sont le taux de change de la roupie fixé à 13 400 roupies par 1 dollar américain et le prix du pétrole à 48 dollars américains par baril. Le directeur de l'industrie maritime, des équipements de transport et de l'équipement de défense du ministère de l'Industrie, Putu Juli Ardika, a déclaré que l'Indonésie développait la mise en œuvre de voitures économes en énergie, y compris l'utilisation de voitures électriques. Le ministère de l'Industrie a confirmé que l'industrie des composants automobiles ne devrait pas s'inquiéter de cette transition. Comme cité par Antara, Putu Juli Ardika à Jakarta mercredi a expliqué, selon les données du ministère de l'Industrie, les voitures hybrides et les voitures électriques deviendraient le véhicule le plus vendu en 2040. Ainsi, la nécessité des composants augmente tant par le type et la quantité. Il a ajouté que le gouvernement s'est également engagé à développer les ressources locales dans le développement de ce véhicule économe en énergie. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers lecteurs, voici donc le commentaire et pour le titre, les efforts de l'Indonésie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Indonésie est l'un des pays producteurs de gaz à effet de serre. Ce phénomène est causé par le taux élevé de déforestation et l'industrie croissante utilisant des combustibles fossiles et des minéraux. La contribution du secteur de l'énergie aux émissions de gaz à effet de serre en Indonésie est placée le deuxième rang dans l'utilisation des terres, le changement d'utilisation des terres et la foresterie. L'absence d'incitation à la protection des forêts, la gestion durable des forêts et les énergies renouvelables, ainsi que les mesures d'efficacité énergétique, augmentent de plus en plus la contribution de l'Indonésie à l'accélération des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le 22 avril 2016, au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, en tant que représentante de l'Indonésie, a signé le traité de Paris sur le changement climatique. L'Indonésie est devenue l'un des premiers pays à déposer directement des instruments de ratification. L'accord de Paris est un accord mondial sur le changement climatique. Les engagements des États sont exprimés à travers la contribution déterminée au niveau national, ou NDC, pour la période 2020-2030, plus l'action pré-2020. En vertu de l'accord, l'Indonésie a choisi de réduire ses émissions de 29% en 2030 de manière indépendante et de 41% avec l'aide internationale. Le traité de Paris s'appliquera s'il est ratifié par au moins 55 pays contribuant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement et des Forêts est conscient que la foresterie et l'utilisation des terres sont les secteurs les plus importants dans le contrôle du changement climatique. Ceci d'autant plus que la zone foresterie qui atteint 65% du territoire indonésien est aussi un lieu riche en biodiversité. Le 17 mai 2018, dans le cadre des efforts de réduction des émissions et d'amélioration de la gouvernance foresterie, le WWF d'Indonésie a signé un protocole d'accord avec la province de Kalimantan Oriental pour soutenir les efforts du gouvernement visant à réduire les émissions de carbone en conformité avec des engagements nationaux résumés dans la contribution déterminée au niveau national CDN, à savoir une réduction des émissions de 29% par auto-effort jusqu'en 2030. À travers le programme de Forest Carbon Partnership Facility, Carbon Fund, géré par la Banque mondiale, la province de Kalimantan Est a la possibilité de réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts basées sur la performance. Le 17 juillet 2018 à Jakarta, le directeur de l'inventaire des gaz à effet de serre, de la surveillance des rapports et de la vérification du ministère de l'Environnement et des Forêts, Joko Prihatno, a déclaré que les réductions totales d'émissions ont été enregistrées sont financées seulement et travaillées par le gouvernement. Considérant que le secteur privé est obligé également de mener des actions d'atténuation pour réduire les émissions. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de secteurs privés mènent des actions d'atténuation du changement climatique, généralement dans le cadre de programmes de responsabilité sociale des entreprises. Joko Prihatno espère, à partir de cette année, toutes les données plus complètes de tous les secteurs sont incluses, de sorte que le reportage au président est plus maximal et lors de la conférence sur le changement climatique. Jusqu'en 2016, l'Indonésie a réalisé une réduction des émissions de 8,7%. Ce chiffre provient de la réduction d'émissions dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture, de l'énergie, de la gestion des déchets et de la production industrielle. La foresterie est le principal contributeur à la réduction des émissions, à savoir 4,7% de la réduction totale. La réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne sont pas seulement des devoirs pour l'Indonésie seulement. Cependant, avec l'engagement de l'Indonésie dans l'accord de Paris de le faire avec ses propres efforts jusqu'à 29% jusqu'en 2030. La coopération de diverses parties, gouvernementales et privées, est nécessaire. La collecte de données doit également être effectuée pour les intérêts nationaux et internationaux. Il est prévu qu'à l'heure convenue, l'Indonésie puisse remplir son engagement. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, voici la rubrique « L'histoire » d'aujourd'hui, le 19 juillet. On commence par la conférence inter-indonésienne 1. La conférence inter-indonésienne est une conférence qui a eu lieu entre la République d'Indonésie et les nations formées par Néerlandais incorporées à Beijing Coms for Federal Overlege. Avec la création de cette institution, les Hollandais espéraient revenir au pouvoir en Indonésie. Mais l'attitude des pays qui y sont incorporés a changé après que les Pays-Bas ont lancé leur deuxième agression militaire contre l'Indonésie. En raison de la sympathie des nations formées par Néerlandais, les dirigeants de la République d'Indonésie peuvent être libérés et Beijing Coms for Federal Overlege contribue également à la mise en œuvre de la conférence inter-indonésienne. C'est ce qui sous-tend la mise en œuvre de la conférence inter-indonésienne. La conférence inter-indonésienne a eu lieu à deux reprises. La conférence inter-indonésienne 1, tenue à Yogyakarta, du 19 au 22 juillet 1949, et la conférence inter-indonésienne 2 à Jakarta du 30 juillet au 2 août 1949. Lors de la première conférence, la partie indonésienne était dirigée par Dr. Andes Mohamed Hatta. Cette première conférence a abouti à plusieurs accords, entre autres l'approbation des États-Unis d'Indonésie sous le nom de République Indonésia Serikat. Ensuite, le 19 juillet 1979, le Front National de Libération Sandiniste a renversé le pouvoir autoritaire de la dynastie Somoza au Nicaragua. Le FSLN, où le Front National de la Libération Sandiniste est un parti politique au Nicaragua fondé sur les principes du socialisme. L'opposition au gouvernement Somoza a été inspirée par le mouvement anti-impérialiste dirigé par Augusto César Sandino dans les années 1930. Le parti menait une révolution populaire en 1979 qui a renversé la dynastie politique de Somoza au Nicaragua. Jusqu'à présent, le 19 juillet est devenu une fête nationale au Nicaragua et célébrée comme la journée de la libération du Nicaragua. Les Sandinistes ont détenu le pouvoir pendant environ 12 ans, de 1979 à 1990. Ils organisent des élections démocratiques et des constitutions nationales, en plus d'autres réformes populistes. Actuellement, le FSLN, ou le Front National de Libération Sandiniste, est l'un des deux principaux partis au Nicaragua, représentant environ 40% des électeurs. Le 19 juillet 1985, l'un des réalisateurs indonésiens, Suman Jaya, est décédé. Suman Jaya, né à Purworejo, Java Central, le 5 août 1934, est l'un des célèbres auteurs et réalisateurs indonésiens. Il est étudié à l'Institut d'État de la cinématographie de l'Union à Moscou, en Russie de 1959 à 1964. Environ 16 films sont créés au cours des 14 années de sa carrière cinématographique. Il a presque toujours remporté le trophée Citra lors de chacune de ses participations au Festival du film indonésien. Les films de Suman Jaya sont en effet attachés aux réalités sociales de la communauté, entre autres Sidul Anak Betawi et Si Mamat en 1973, Sidul Anak Moderne en 1976, Kabut Sutra Ungu en 1979, Kartini en 1982, Budak Nafsu en 1983 et Krikil Krikil Tajam en 1984. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Laskar Hijau développe un traitement des déchets avec des verres. Le groupe non-gouvernemental de Laskar Hijau, la régence de Bangka West, la province de Bangka Belitung, a mené un essai de traitement des déchets organiques à l'aide d'un verre décomposeur. Le responsable du groupe non-gouvernemental de Laskar Hijau, Ari Kurniadi, a déclaré à l'agence de presse Antara à Muntok dimanche que les essais ont été faits depuis quelques mois et les résultats sont assez encourageants. Il souhaite que dans l'avenir, les modèles respectueux de l'environnement puissent être développés par les gens et d'autres groupes pour que les déchets organiques puissent être contrôlés ensemble. Selon Ari Kurniadi, le schéma de décomposition des déchets organiques à l'aide d'un verre décomposeur a été fait dans plusieurs endroits de Java et a été en mesure de contrôler l'accumulation des déchets ménagers. En plus d'être en mesure de décomposer rapidement les déchets organiques, les excréments des vers ont également la valeur économique élevée car ils sont utilisés comme compost organique. Selon Ari Kurniadi, ils vont essayer de développer le traitement des déchets organiques à plus grande échelle. Les déchets proviennent des membres de KSM Laskar Hijau qui compte actuellement environ 350 ménages. Sur les 350 ménages enregistrés, Laskar Hijau a réussi à contrôler environ 0,6 tonnes de déchets ménagers par jour. Initialement, le mouvement auto-assistance qui a été créé au début du 10 janvier 2018 se compose d'environ 100 ménages à Sungai Daeng Muntok et actuellement augmente 350 membres dans le village de Sungai Daeng, Sungai Baru, Tanjung Air Belo et Belo Laut. Ari optimis, le modèle de contrôle des déchets en cours de développement aura un impact sur la conservation de l'environnement et des avantages positifs pour le bien-être de la société. Il a dit le groupe non-gouvernemental Laskar Hijau a l'intention de gérer les déchets de manière indépendante et dans l'avenir peut aussi contribuer au développement de l'agrotourisme éducatif et en bonne santé. Chers amis, c'était la rubrique Molinésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous inviter à visiter un site touristique, Lobang Kacamata de Bengkulu. Lobang Kacamata est en fait un endroit des mines d'or du patrimoine néerlandais qui est situé dans le village de Lobang Tambang, sous-district de Lobang Nord, environ 2 km du centre-ville de la province de Bengkulu. Aujourd'hui, il devient une exploitation minière traditionnelle par les populations locales. L'activité traditionnelle des mines d'or a sa propre attraction pour les touristes qui veulent voir directement le processus de l'exploitation de l'or. Et parce qu'il a une forme unique qui ressemble à des lunettes, les populations locales appellent Lobang Kacamata ou les trous des lunettes. Le site touristique de Lobang Kacamata est un témoignage de l'histoire de la colonisation néerlandaise en Indonésie, notamment dans la région de Lobang. La grotte est située dans la colline ou sur les murs de la colline rocheuse qui est l'un de la passerelle à l'emplacement de l'exploitation minière. Il est d'environ 2 mètres de large et 4 mètres de haut à partir du sol. La grotte dans ce trou est clairement visible et décrit également l'énorme activité de l'exploitation de l'or et de l'argent à ce moment-là. Dans le passé, le bon était riche et populaire en raison de son or et de l'argent. L'une des contributions de Lobang était l'or sur le sommet du monument national ou Monas à Jakarta. Cet objet touristique peut être accessible par le transport en commun. Aujourd'hui, l'activité des mines d'or et d'argent fonctionne toujours, mais il ne tient traditionnellement. Maintenant, il devient une attraction comme un tourisme historique pour les personnes qui veulent voir comment le processus de l'exploitation, du raffinage jusqu'à l'étape de la fabrication, de devenir de l'or et de l'argent. Actuellement, le site touristique de Lobang Kacamata devient le lieu de Outbound et Flying Fox. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta, dans la rubrique Bahasaku, comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta, dans le programme Ma langue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma Langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Java-Ouest afin de connaître de diverses choses sur la langue sundanaise. Il n'y a pas de province définitive de l'origine de l'écriture sundanaise créée et utilisée par le peuple sundanais. Cependant, non seulement quelques manuscrits ou inscriptions de Java-Ouest qui datent d'avant le 14e siècle ont été écrits en utilisant l'écriture sundanaise qui est aussi appelée Aksara Kaganga, soit le script Kaganga. À cette époque, les anciens manuscrits de Java-Ouest, appelés Kropak, et utilisaient des feuilles de palmier comme médium. L'un des manuscrits anciens au script sundanais est le manuscrit Charita Parahyangan qui était estimé d'avoir été fait au 16e siècle. Le manuscrit Charita Parahyangan contient l'histoire de la terre Sunda et de capitale du royaume Sunda à cette époque, à savoir Kraton Galuh et Kraton Pakuan. Le manuscrit Charita Parahyangan fait partie de la collection du Musée National Jakarta. La gloire du script sundanais avait obscurci pendant la période coloniale en Indonésie. À cette époque, le peuple sundanais était forcé par le dirigeant à abandonner l'ancien script sundanais. La situation a duré jusqu'à l'indépendance de l'Indonésie, de sorte que l'utilisation de l'ancien script sundanais dans la tradition de l'écriture sundanais a également diminué de façon spectaculaire. Ne restez pas silencieux, le gouvernement et les universitaires examinent, développent et préservent l'écriture sundanaise. Vers la fin des années 1990, l'écriture sundanaise standard a été établie et réintroduite. Jusqu'à présent, les élèves de la région de Java-Ouest sont tenus d'apprendre la langue et l'écriture sundanaise. Serviteur, c'est quelques couleurs en langue sundanaise. Bodas, en français, blanc. Koneng, en français, jaune. Hideung, en français, noir. Berem, en français, rouge. Hejo, en français, vert. Aussi. C'est l'exemple de phrase de sundanais. Mimin, anjen boga baju nu berem. En français, Mimin, avez-vous une chemise rouge? Titin, abdi, teboga baju nu berem, lamun hideung kumaha. En français, Titin, je n'ai pas de chemise rouge. Qu'est-ce qui est noir? Tenanaon, nuhun Titin. En français, c'est bon, merci Titin. Serviteur, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à www.voinews.id. Je répète, www.voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia. Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VoiceIndonesia. Serviteur, c'était le programme Ma Langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta, dans la rubrique Bahasaku, comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci à vous d'écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons pop chantées par Rafika Duri, une chanteuse célèbre dans les années 70. La plus jeune de sept frères est la fille de Kemas Duri à ce moment-là. Il était le chef de district de Sungai Liat, Bangka. Elle est née le 20 janvier 1960 à Bangka. Elle a commencé à chanter depuis qu'elle était enfant. En 1971, à l'âge de 11 ans, Rafika a gagné le premier prix de musique pop à Bangka. Après cela, elle a déménagé à Jakarta. Bon, chers amis, on écoute la première chanson intitulée « Selamang pour toi ». Bonne écoute.
Seluruh hatiku sepanjang senyum.
Serviteur, merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était la première chanson nostalgique chantée par Rafika Duri. Elle est connue après avoir remporté le prix en 1976. Elle a fait un duo avec Harvey Malaiholo et a également remporté le prix pour la catégorie d'un chanteur. Rafika est très connue par sa chanson intitulée « Le cœur blessé » créée par Arianto. Elle était plus célèbre après avoir gagné Gaya Gem Award au Festival International avec la chanson intitulée Seulement pour toi, créée par Arianto en 1978. Bon, chers amis, on écoute une chanson intitulée Pourquoi devons-nous rencontrer? Bonne écoute.
Berjumpa
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons musique indonésienne. Merci à tous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.